Science Chrono, Antoine Beauchamp.
Au début des années 1950, la question suivante s'est posée. Une machine peut-elle penser et par conséquent créer ? Avec les tout premiers ordinateurs aux capacités visuelles limitées, c'est autour du texte et notamment de la poésie que s'est concentrée cette réflexion au point d'inspirer les poètes eux-mêmes et de donner naissance à une poésie numérique. Alors que les intelligences artificielles dites génératives livrent aujourd'hui des sonnets à l'appel et sur commande, Science Chrono vous propose un retour sur la genèse de ces IA au talent de poète questionnable. Et bonjour Thierry Poibeau.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS à l'École Normale Supérieure et directeur du projet UPOCO, ouvroir de poésie combinatoire, un projet qui propose de générer des poèmes à partir de sonnets préexistants. On va retracer ensemble cette histoire d'un dialogue fertile entre développement informatique et écriture poétique qui soulève des questions aussi vastes que celles de la créativité, des structures linguistiques, mais aussi des limites et des capacités des outils informatiques. Mais pour démarrer cet épisode de Science Chrono, je vous propose qu'on écoute ensemble une archive. Il s'agit d'un extrait d'un atelier de création radiophonique produit par René Farabet et intitulé Poésie Machine. Il était diffusé sur France Culture en février 1999. On y entend la voix du poète Jacques Donguy, avant et après la lecture de poèmes générés à partir de vers de Victor Hugo lus par René Farabet. Et pour conclure, la voix du poète Tibor Pape.
Pour le générateur de texte, le terme a été employé par Jean A. Baudot, qui est l'auteur de La Machine à écrire, paru aux éditions du Jour à Montréal en 1964. Très tôt. Et c'était une des premières utilisations d'ordinateur, dès Théolutz en 1959, on a généré du texte.
Phrase composée par la machine, à partir du vocabulaire de Victor Hugo, « Le chiffre enseveli extermine les songes terribles. Les abîmes et les moissonneurs solitaires n'erraient jamais. Une enclume farouche froissera avec peine une faucille ordinaire avec la lueur. Un sang mutile les fosses crépusculaires par un glaive fertile. »
On se trouve dans une situation non plus de l'auteur, conception du 19e siècle, avec la muse, l'inspiration, etc., mais dans une situation a posteriori, c'est-à-dire que l'ordinateur va fournir une infinité de solutions et que le travail, entre guillemets, créatif, consistera à faire des choix à partir de ce que propose la machine.
Il faut dire aussi, moi j'ai fabriqué aussi un générateur de texte. C'est une immense joie pour le créateur à un moment donné de se rendre compte que dans une structure de phrase, les mots sont interchangeables. Puisque nous avons toujours appris dans la littérature que le poète est génial puisqu'il a trouvé le seul mot qu'on peut mettre à tel et tel endroit. Et on se rend compte avec un générateur de texte que non, à la même place, on peut mettre d'autres mots et c'est toujours une très belle phrase et littérairement, ça peut se tenir très fort. Donc pour moi, c'était une immense découverte.
Voilà cet extrait de l'atelier de création radiophonique Poésie Machine, Thierry Poibeau. Dans ce que vous venez d'entendre, qu'est-ce qui vous interpelle en premier lieu ?
À la fois le fait qu'il y a des interrogations qui sont encore celles d'aujourd'hui et des thèmes qui parcourent un peu toute l'histoire de l'informatique sur la tension entre créativité et automatisation. Ce qu'on voit, c'est des mots qui sont mis ensemble, comme il y a une, si j'ai bien noté, il y a une glaive fertile. Et ce que dit Tibor Pape à la fin, le fait que sur des associations un peu incongrues, l'humain, parce que c'est un texte qui a été produit automatiquement et qu'on a tendance à trouver de la cohérence dans les textes, on finit par en trouver dans ces textes qui sont produits de manière semi-automatique et semi-aléatoire.
Vous parlez d'association incongrue au sein même de la poésie. Est-ce que l'association intelligence artificielle, proto-intelligence artificielle, informatique et poésie est en soi une association incongrue? Parce qu'on ne penserait pas forcément à une rencontre, à une collision entre ces deux mondes.
Oui, c'est ce que dit Tibor Pape, je crois, dans l'extrait. Et effectivement, on voit que quand on regarde ce qui a été fait à cette époque-là, il y a une exploration systématique de la combinatoire. Donc il y a un stock de mots, et comme les capacités étaient très réduites, c'est soit une dizaine de mots, une dizaine d'adjectifs. Et il y a plusieurs expériences comme ça qui essayent de voir la combinatoire systématique de toutes ces possibilités, et de voir en quelle mesure ça crée de la poésie ou du n'importe quoi.
En préparant cette émission, et même au début, je me suis dit, tiens, on va réfléchir à cette rencontre potentielle entre une poésie créée par ordinateur, et je m'attendais pas du tout à trouver autant d'expériences dès les tout débuts, dès les prémices de l'informatique. Ça m'a vraiment sidéré. Alors on va en parler de quelques-unes de ces expériences-là, mais j'aimerais avant tout poser une question peut-être monumentale, mais le statut du poème dans une langue, c'est quoi ? Est-ce qu'un poème, c'est déjà en soi une structure algorithmique ?
Vaste question, effectivement. Je pense que, enfin, si je réponds un petit peu à côté, je pense que pour les poètes, l'ordinateur était vu comme quelque chose de systématique, mécanique, alors que pour les informaticiens, la poésie était vue comme quelque chose de complètement libre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est la réunion des deux. On voit, c'est aussi une période des années 50-60 où on a le minimalisme et la mécanisation. Donc il y a toute cette exploration, à la fois par les informaticiens et par les poètes, qui se retrouve sur cette double dimension.
Il y a un dialogue fertile qui va s'établir, bien évidemment, dans les années 50, 60, 70. Ce dialogue, alors je parlais tout à l'heure du début des années 50, ce fameux test de Turing, mis en place par le mathématicien informaticien Alan Turing, qui voulait justement poser la question clé, est-ce qu'une machine peut penser, et avait développé un test pour justement établir si une machine ou non, à partir de quand une machine, on peut dire qu'une machine pense. Et ce qui est intéressant, c'est que même si c'est anecdotique, dans ce test-là, une des questions qu'il pose à la machine à un moment, c'est « Est-ce que tu peux m'écrire un sonnet ?» Un sonnet sur le pont du Forth, qui est un pont emblématique en Écosse, à côté d'Édimbourg. Et même si c'est anecdotique, Thierry Poibos, ça m'a intrigué, cette présence déjà là de la poésie dans cette première réflexion philosophique sur l'intelligence artificielle. Est-ce que vous aussi, ça vous intrigue ?
C'est intriguant, et on voit que dans les années 50, autour de la cybernétique, de ce qui s'appelait pas encore les sciences cognitives, mais qui font vraiment penser à ça, il y avait toute une réflexion sur justement la mécanisation, le degré de liberté qu'on a par rapport à ça. Et la grande question, c'était le rapport entre l'ordinateur et le cerveau. Dans quelle mesure le cerveau est un ordinateur qu'on pourrait, et donc quelque chose qu'on pourrait reproduire sur une machine.
Dans le test de Turing, donc la question c'est s'il vous plaît, écrivez-moi un sonnet sur le pont du Forth. La réponse de l'ordinateur, elle est un peu évasive, mais elle est amusante. Elle dit, ne comptez pas sur moi, je n'ai jamais été capable d'écrire de la poésie. Donc ça c'est intéressant parce que il y a eu quand même un retournement et aujourd'hui, plein de systèmes d'intelligence artificielle générative peuvent écrire des poèmes. Dans l'archive qu'on a écouté tout à l'heure aussi, il y a un nom qui est dit d'emblée, c'est le nom de Theo Lutz, qui était un informaticien allemand en 59, qui travaillait à Stuttgart et qui, le premier, a fait une espèce de poème généré par ordinateur qu'il a baptisé Stochastische Texte. Mon accent allemand est déplorable, mais un texte stochastique, donc produit par les effets du hasard. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette expérience et de son aspect un peu technique? Comment est-ce que on a fait pour la première fois produire par un ordinateur une poésie?
Pour ce que j'ai vu, il avait, ça correspond un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, donc c'était sur des cartes perforées, donc des choses, on pouvait pas mettre un dictionnaire entier dans la machine. Donc il y a 16 noms, 16 adjectifs, et c'est une expérience où il fait la combinatoire de toutes les possibilités de noms adjectifs, avec mis dans des structures de phrases où il dit X et Y, enfin... Alors, j'ai pas d'exemple en tête, mais un homme est beau et tout homme n'est pas beau, des choses comme ça, en allemand.
Il a pris pour ça des mots tirés du château de Kafka. Ça donne, si je prends un extrait de cet autopoème, comme il l'a baptisé, ça donne « Quand la dulcinée joue, une soirée se fige, l'or et la beauté brillent parfois, je danse et je sens, souvent l'herbe me touche, la cloche pousse, rugueuse et dorée, les sentiers et les messagers sont des ruisseaux, qui embrasse une plante, le poète. » Donc là, on peut se dire, bon, c'est pas mal quand même pour une grosse machine qui prenait la taille d'une pièce entière. À partir de ces travaux-là, Lutz n'est pas tout seul, n'est pas isolé dans cette galaxie de chercheurs en informatique. Il y a plusieurs autres expériences à la fin des années 50 qui aussi cherchent à faire produire des textes poétiques par les ordinateurs. Est-ce que vous pourriez nous en présenter quelques-unes? Je pense par exemple à celle de Margaret Masterman. Est-ce que vous pourriez nous raconter cette histoire-là?
Oui, juste peut-être pour revenir sur l'extrait, ce que j'avais donné comme exemple de tête n'est pas très intéressant. Et on voit quand on prend une machine, ce qui est produit, parce qu'il y a un vocabulaire spécifique, ça donne des choses beaucoup plus poétiques. Donc il y a ça aussi, le fait que, même si c'est entièrement automatique, le vocabulaire pris de manière un peu aléatoire rend des choses... c'est pas incongru, c'est plutôt intriguant et qui pousse à avoir de la poésie. Et dans ce cadre-là, ce qui est intéressant aussi, dans les années 50-60, même si les expériences peuvent sembler très simples, il y a eu toute une réflexion sur les sons, sur les structures, etc. Donc il y a toujours un double aspect entre la structure du poème qui est fixée dans la machine et le vocabulaire qu'on va faire varier. Et c'est là où on va chercher on va parcourir une liste et on va avoir des rencontres de mots un peu incongrues ou un peu surprenantes ou un peu poétiques.
C'est là qu'on voit que c'est très compliqué de créer du sens à partir d'une combinaison de mots préexistants et d'œuvres préexistantes.
Oui, non, si on revient à Tibor Paff, ce qu'il disait au début, c'est que même si on prend des mots, a priori, qu'on ne pense pas mettre ensemble, le fait de les mettre ensemble et que ça sort d'une machine nous pousse à y voir quelque chose de poétique, d'intéressant, d'intrigant.
Alors, pour revenir à ces autres expériences qui émergent en même temps que l'informatique autour de la création de poésie par ordinateur et par des systèmes de proto-intelligence artificielle, on peut le dire peut-être de façon un peu rapide, est-ce que vous voyez d'autres expériences? Je parlais tout à l'heure de Margaret Masterman.
Margaret Masterman est particulièrement intéressante. C'est une femme au milieu d'un monde essentiellement masculin déjà à l'époque. Et elle s'est vraiment intéressée au haïku. C'est-à-dire, et donc c'est là, c'est un nombre
poème très court japonais ramassé.
C'est une forme très courte, effectivement, avec un nombre de syllabes fixes. Elle essaye de faire rentrer des formes, des choses qui ont du sens, donc en anglais, avec cette forme qui vient du japonais. Et c'est essentiellement au niveau de la syllabe. Donc ça veut dire qu'elle intéresse aussi aux allitérations, à d'autres aspects, qui sont, encore une fois, sur une expérience très simple, mais qui, on voit que les poètes vont voir soit la mécanisation, soit des aspects syllabiques, soit des allitérations. Il y a tout un foisonnement d'idées. Et en plus, Masterman était une ancienne étudiante de Wittgenstein, même si, visiblement, elle s'est peut-être fait sortir de son cours rapidement. Mmh. Mais c'était quelqu'un qui s'intéressait vraiment à la philosophie, à d'autres domaines.
À la linguistique, ouais.
À la linguistique, évidemment. Et on voit que c'est vraiment ce qu'on appelle cybernétique qui est devenu un peu, pas un domaine qui est très bien vu de nos jours, mais à l'époque, c'était vraiment les prémices de l'intelligence artificielle et ce bouillonnement qui n'y a même plus peut-être autant aujourd'hui entre la philosophie, les sciences cognitives, la linguistique et l'ordinateur.
C'est vrai qu'on a tendance à oublier ce qu'était la cybernétique, qui était un croisement de tout un tas de disciplines et de chercheurs, des psychologues jusqu'aux philosophes en passant par les informaticiens et qui pensaient justement à quoi pourraient servir ces outils qui étaient en train d'être créés et quels pourrait être leur devenir. Et on imagine mal aujourd'hui que les recherches sont finalement souvent très cloisonnées, des psychologues dialoguer avec des purs informaticiens.
Ça arrive encore, mais c'est vrai que c'est il y a beaucoup plus de monde, donc on arrive à encore avoir ces interfaces. Mais c'est vrai que comparé à ce qui se fait dans la science, où on est effectivement amené à être de plus en plus spécialisé, il y a moins ce dialogue peut-être qu'il y avait dans les années 50. Mmh. C'était vraiment la base et c'était vraiment fondamental.
Et ce qui est intéressant, Thierry Poibeau, c'est que dans cette période de développement, ce que vous disiez tout à l'heure, des tout débuts de l'intelligence artificielle, dans le même moment, il y a des courants littéraires, des groupes littéraires qui se constituent. Je parle ici de l'Oulipo, de l'ouvroir de littérature potentielle, mis en place par le mathématicien François Lyonnais et le poète Raymond Queneau, qui ont des recherches qui sont très très proches. Alors, est-ce que c'est un pur hasard, ou est-ce que, bien sûr, l'ambiance scientifique de l'époque fait que ça va percoler et influer sur le devenir de certains mouvements littéraires ?
C'est peut-être aussi leur volonté propre, mais c'est le milieu et les recherches de l'époque qui ont poussé vers là, c'est sans aucun doute. Surtout quand on prend 100 000 milliards de poèmes de Queneau, faut bien se rendre compte qu'à l'époque, surtout dans les années 50, beaucoup de recherches en informatique étaient simplement des recherches faites sur le papier parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur. Dans plein d'universités, il n'y avait pas d'ordinateur. Et Queneau, en faisant 100 000 milliards de poèmes, en écrivant ce livre, en ayant cette idée
de... On peut présenter ce livre parce qu'il est fascinant.
C'est plus qu'un livre, c'est un livre-objet, c'est décrit parfois comme ça, parce qu'en fait c'est donc des sonnets, chaque vers est sur une bande de papier, qui, donc le livre est découpé en bandes de papier, et le lecteur peut combiner tous les vers, qui sont chacun sur une bande de papier encore une fois, pour produire des poèmes, et en combinant toutes les différentes possibilités, avec juste une dizaine de poèmes, on peut produire 100 000 milliards de sonnets.
Et Raymond Queneau dit dans sa préface, en comptant 45 secondes pour lire un sonnet et 15 secondes pour changer les volets à 8 heures par jour, 200 jours par an, on en a pour plus d'un million de siècles de lecture. Donc rien que ça. Donc c'est ça qui est fascinant avec 100 000 milliards de poèmes, c'est que c'est le premier livre qui ne sera jamais lu par personne et qui n'a même pas été lu par son auteur lui-même. Et ce qui est très très intéressant dans 100 000 milliards de poèmes, c'est que l'exergue, il y a une citation en exergue qui est une citation de Turing et qui dit « Seule une machine peut apprécier un sonnet écrit par une autre machine ». Et on en revient à ce dialogue, ce croisement entre informatique et poésie qui est assez intriguant, et je n'arrive pas du tout à interpréter cette citation de Turing. Est-ce que vous pouvez m'aider ?
Je pense que c'était vraiment dans l'esprit du temps, et que c'est ça qui a dû inspirer Queneau. Après, je n'ai pas connaissance d'écrits spécialement spéciaux de Queneau sur Turing. Ce qui est intéressant sur ce que vous avez dit avant, sur le fait de générer des poèmes, ça fait aussi penser à Chomsky, qui dans la même période, à la fin des années 50, a un peu révolutionné la linguistique, qui était avant plutôt de l'observation de ce que les gens disaient, donc du behaviorisme, donc d'aller recueillir des enregistrements, enfin des productions linguistiques. Et Chomsky a complètement changé la donne en imaginant l'idée d'une grammaire formelle qui pouvait produire une infinité de phrases. Et je pense qu'à travers toutes ces expériences, il y a aussi ce développement de la linguistique et concomitant de l'informatique qui était comment est-ce qu'on peut formaliser une langue pour produire une infinité de phrases. Et on voit que tout ça, ça va vraiment de pair avec la combinatoire, avec cette infinité de production.
Et d'une certaine façon, avec l'informatique se crée un nouveau langage et il faut adapter le langage préexistant à ce nouveau langage. L'Oulipo, donc, c'était un groupe de recherche très teinté de science dans sa démarche littéraire. Ils ont essayé de faire digérer par un ordinateur ces 100 000 milliards de poèmes, mais ça s'est pas très bien passé. Je crois qu'en dès 1962, dès la sortie de 100 000 milliards de poèmes, il y a un informaticien qui s'appelle Dimitri Starinkevitch qui rentre dans un gros calculateur, un CAP 500, les 100 000 milliards de poèmes, mais ça convainc pas ni le Lyonnais ni Queneau.
Non, et alors beaucoup de gens essaient d'interpréter pourquoi. On ne sait pas. Enfin, il y a quelques écrits de dans Jacques Benz. Il écrit un historique de l'Oulipo qui raconte les débuts de l'Oulipo, où il raconte cette scène où on voit que Queneau n'est pas satisfait. Il y a deux hypothèses. Personnellement, je pense qu'il y avait déjà une difficulté à accéder à la machine, c'est-à-dire que c'est pas eux qui pouvaient faire ça. Et donc, pour un poète, c'est pas très intéressant parce que il y a vraiment une barrière technologique ou même très mécanique pour accéder à l'ordinateur. Et surtout, ça produit des poèmes un peu aléatoirement. C'est-à-dire que c'est une sélection et il y a plus les livres-objets et le fait que les gens puissent choisir les vers et se dire ah bah ce vers là est pas très intéressant, ouais. Je vais choisir un autre pour le quatrième vers, je vais changer. Il n'y a pas cette exploration, cet aspect dynamique qu'on avait dans le livre de Queneau.
Et cet aspect ludique, parce que l'inspiration première de Queneau, c'était ses livres pour enfants où on peut mettre un chapeau, puis un pagne, puis voilà, on peut avec des languettes habiller un personnage de façon différente selon qu'on tourne ou pas une languette. Ce qui est intéressant pour autant, c'est que dans les continuateurs de l'Oulipo, émerge un courant de poètes numériques, de poètes qui vont faire de l'outil informatique un vrai moyen technique d'explorer de nouveaux champs poétiques. Est-ce que c'est un courant qui va faire florès? Est-ce que c'est des poètes... Voilà, on peut peut-être citer certains de ces travaux. Et quelle évolution la poésie connaît grâce au développement informatique?
On voit que c'était vraiment innovant à l'époque. C'était à la pointe. Et donc, il y a des œuvres qui sont maintenant... il y a une œuvre de Brion Gysin, je sais pas comment on prononce exactement, mais qui a été ces œuvres qui exploraient l'aspect mécanique, l'aspect systématique de la langue, en produisant la combinatoire de systématique, a ensuite été aussi, a donné lieu à des... Enfin, je pense qu'il y a l'intérêt de l'œuvre d'art elle-même, de cette systématisation de la poésie. Et puis, ça donnait lieu à plein d'œuvres autour de... Alors, Gysin a lu son texte et ça donne lieu à des performances autour de la poésie, voire pour l'œuvre de Alison Knowles, qui a produit un générateur qui produit des vers sur une maison dans un lieu avec construite avec tel matériau dans un certain lieu. Et après, donc c'est aussi une espèce de liste un peu systématique. Des gens qui sont emparés de ça pour faire des installations, des œuvres d'art dans des musées, dans d'autres lieux ensuite.
Là, on entend la voix de Brion Gysin qui lit justement « I am, that I am, that I am, that I am ». Et en fait, c'est un poème qui est basé sur une formule et qui est recombiné par un mathématicien, puis réinformatisé. Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Thierry Poibeau, c'est que le poème devient un objet d'art. Vous parliez de Alison Knowles avec son travail « The House of Dust », où elle fait, dans un musée créé par un ordinateur, des poèmes qui décrivent des maisons dans des lieux spécifiques. Là, on comprend bien, du coup, l'influence qu'a l'informatique et ses systèmes d'intelligence artificielle sur l'évolution de la poésie. On va parler maintenant, et on va être obligé de faire un saut dans le temps, puisque le temps passe, on va parler des intelligences artificielles dites génératives d'aujourd'hui.
France Culture, Science Chrono, Antoine Beauchamp.
C'est Science Chrono, on est obligé de faire des bonds dans le temps parfois un peu colossaux, Thierry Poibeau. Alors là, on va faire quatre décennies de sauts dans le temps. On en arrive à aujourd'hui, aux intelligences artificielles dites génératives. Il y a des centaines de programmes aujourd'hui sur Internet qui peuvent produire de la poésie sur commande. Donc là, en fait, on est loin de Turing avec l'ordinateur qui disait « j'en suis bien incapable ». Aujourd'hui, elles sont très capables et si on pose la question « produis-moi ». Un poème sur le pont du Force, une intelligence artificielle le fait quasiment dans le style de Shakespeare si on pose la question en anglais. Comment est-ce que on explique ce changement et qu'est-ce qui, d'un point de vue très général et technique, a changé pour que aujourd'hui, en un clic, une intelligence artificielle puisse produire un poème de façon très rapide?
C'est une longue question, grande question. Mais le point essentiel, c'est qu'on a accès à des milliards de textes et que la machine, et qu'on a aussi une modélisation statistique de la langue, ce qui fait qu'on peut produire des phrases qui sont très plausibles, les plus probables, avec un certain degré de variation pour pas produire toujours la même chose. Et on encode ça maintenant au niveau de la phrase elle-même, voire du texte, ce qui garantit une certaine cohérence des textes. Et cet aspect est un peu bluffant, parce que ça répond de manière quasi parfaite à certaines questions, même si des fois ça répond à côté de la question, mais ça répond bien et surtout ça produit des textes qui sont cohérents, ce qui était une gageure pendant longtemps, parce que qu'est-ce qu'un texte cohérent? Ça, c'est aussi le point nouveau de ces modèles, c'est pendant longtemps, on a échoué pour dire qu'est-ce qu'était la cohérence, comment est-ce qu'on pouvait définir la cohérence, voire même le sens, comment est-ce qu'on définit le sens. Et sans les avoir vraiment définis, ces modèles arrivent à faire ça.
Alors, si on prend, cette question-là, vous disiez que c'était bluffant. Vous, qu'est-ce qui vous surprend et vous fait vous dire, ouais, c'est quand même très, très fort?
Oui. Il y a deux choses. Le fait que, Ça marche bien parce qu'il y a tous ces milliards de textes qui sont vus, qui étaient incroyables. Il y a 20 ou 30 ans, on n'aurait jamais pensé pouvoir avoir accès à autant de textes comme ça directement. Et l'autre aspect, c'est quand même l'aspect multi. Pendant longtemps, on a fait des systèmes qui étaient vraiment dédiés à une tâche. Et là, quand on prend, bon, tout le monde pense à ChatGPT, il y a plein de modèles qui font un peu la même chose aujourd'hui. Ces modèles, ils sont, ça s'appelle du zero-shot learning, c'est-à-dire que sans qu'on les ait entraînés sur une tâche, ils peuvent faire, ben, ce qu'on disait, ils peuvent produire de la poésie, alors qu'ils n'ont pas été entraînés pour produire de la poésie. Et ça, c'est vraiment étonnant.
Alors, quelque chose de très personnel, mais quand je demande à ChatGPT, par exemple, de me produire un sonnet, je suis pas très ému. Est-ce que là, pour le coup, c'est juste c'est un biais parce que je suis face à mon ordinateur, que je vais passer cette commande et que si je trouvais ce texte-là dans un livre de poésie, peut-être que je le trouverais plus intéressant? Première question. Et deuxième question, et très très grande question et vaste question, est-ce que ces systèmes-là ne nous reposent pas la question de qu'est-ce que c'est que la créativité au fond?
Donc si je commence par la fin, oui, ça pose exactement le problème de la créativité, enfin la question de la créativité. Et une grande question qu'on a sur ces générateurs, avant au premier lieu ces générateurs d'images, la grande question c'était si je produis un milliard d'images, ce qui est facile, c'est comment je fais pour choisir la meilleure. Et ça, donc, même si les textes sont cohérents, la machine ne sait pas qu'est-ce qu'un texte cohérent et elle sait encore moins dire qu'est-ce qu'un texte esthétique. Et donc on a un peu peut-être l'inverse de ce qui se passait dans les années 50. On peut maintenant produire des milliards de textes qui sont parfaits, qui sont cohérents, qui sont lisibles et complètement français ou complètement anglais sur la langue qu'on choisit. Mais lequel va produire de la... Enfin, quel est le statut de ces textes? Est-ce qu'ils produisent une émotion? Est-ce qu'ils ont un intérêt esthétique? C'est la grande question qui est posée.
Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, une intelligence artificielle comme ChatGPT est créatrice et créative?
Je ne sais pas répondre à cette question. Sur la poésie, c'est difficile de le dire. Enfin, la machine produit des poèmes, donc de ce point de vue-là, oui. Quand on demande à des gens de produire des poèmes, ils sont souvent, ça sera souvent navrant. Donc la machine fait mieux que beaucoup d'humains. Et la machine a inventé des stratégies au jeu de Go. Donc il y a un autre domaine, mais donc la machine est créative jusqu'à un certain point. Après, elle n'a pas de volonté pour... on peut dire que la créativité, c'est quand même une volonté de produire quelque chose d'original, et la machine n'a pas cette volonté. Donc il n'y a pas la notion de volonté, de conscience, toutes ces notions qui sont très humaines ne sont pas encore dans la machine.
Si je vous ai invité aujourd'hui, Thierry Poibeau, c'est que vous, au présent, vous faites des travaux de recherche directement liés à cette question de la création de poésie par ordinateur, avec un projet qui s'appelle La Boîte à Poésie, et une continuation de l'Oulipo, Loupoco, l'ouvroir de poésie combinatoire. Comment est-ce que vous pourriez nous décrire ce projet-là et le sens que vous donnez à cette recherche-là, quel est-il?
Justement, alors, à un moment où on est en train d'explorer la génération neuronale de poésie, donc tout ce qui est ChatGPT et systèmes semblables, là on a voulu revenir un peu en arrière dans la continuité de ce qu'a fait Queneau et Loulipo en général. Donc faire juste un système très simple, combinatoire, à partir de poèmes du 19e qui sont libres de droit existants. Donc il y avait... Et en fait, l'origine de ce projet, c'est une rencontre avec Mathieu Raffard et Mathilde Roussel, donc deux artistes à Paris, qui m'ont contacté pour d'autres raisons. Mais on a discuté et on a vu qu'il y avait cet échange fertile, 60 ans après les recherches de Queneau, les expériences de Queneau, où on pouvait vraiment mêler art et création et informatique et ordinateur, et explorer la langue à travers ça. Donc c'est à la fois une expérience esthétique avec une œuvre d'art qui a été produite par l'atelier Raffard Roussel qui a en fait intégré un algo très simple qu'on avait conçu au Lattice, le Lattice est mon laboratoire de recherche, et aussi une recherche avec les équipes de la Bibliothèque nationale de France pour collecter 4000 sonnets qui existaient mais qui n'étaient pas disponibles sous forme électronique directement accessible avant. Et avec ça, on explore, donc on se situe un peu, donc modestement, dans la suite des travaux de Queneau, sur cette réflexion sur qu'est-ce que la poésie, qu'est-ce que faire de la poésie au XXIe siècle, parmi énormément d'autres, évidemment, et qu'est-ce que la créativité par ordinateur. Toutes les questions qu'on s'est posées depuis le début, on s'est reposées à travers cette collaboration. Pour ça, il ne faut pas être qu'avec des informaticiens, mais ça amène d'autres regards de discuter avec des artistes, avec des plasticiens, avec d'autres personnes, des poètes... sur ce domaine.
Et ce qui est fabuleux, c'est que ça fait vivre ces grandes questions sur justement qu'est-ce que la créativité, qu'est-ce que le sens d'un texte poétique, qu'est-ce que le sens tout court, qu'est-ce qu'une structure linguistique et comment on l'interroge. Ça nous permet aussi de remettre l'intelligence artificielle à sa place et de comprendre que ça peut être aussi un formidable outil d'analyse. Ça aussi, c'est un travail que vous commencez à mener avec la BNF, je crois.
Oui, on fait ça. Et on a aussi, avec une autre collaboration avec Fiammetta Guidini de la société Riva Illustration, on a produit une vidéo, une petite vidéo de 4 minutes. On a eu le prix de la vidéo la plus entertaining à Eshkai, donc qui est une grande conférence d'IA. Justement, on fait ce lien entre une vidéo qui est aussi un aspect très, très esthétique. Donc il y a ce continuum sur, et on a été dans les écoles pour montrer ça. Donc il y a vraiment un continuum entre les archives et les bibliothèques qui sont importantes pour garder ce patrimoine, donc tout le côté patrimonial de la chose, jusqu'à la création. Et je pense que c'est bien de faire le pont entre le côté patrimonial et la création, et aussi le côté toute la réflexion autour de ces techniques très actuelles d'informatique, d'IA, et qui posent plein de questions de... En fait, les mêmes, en fait, qu'il y avait avant. Entre l'aléatoire et la règle, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Quelle est la valeur de ce qu'on peut faire à partir de là?
Bien, merci beaucoup, en tout cas, Thierry Poibeau, de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Science Chrono. Pour celles et ceux qui seraient curieux de générer des poèmes à l'infini, vous pouvez vous rendre sur le site upoco.org et cliquer sur l'onglet générateur de poèmes. Comme il nous reste un tout petit peu de temps, je vous en propose un généré tout à l'heure pendant la préparation de l'émission. Ça commence. Naïs disait « Seigneur ». Tout proche des voix d'anges, tout dort sous les grands bois accablés de soleil. Quand ils passent, l'amour succède aux cris de rage. Ils ne maudissent pas, encolérés d'orgueil. Celui-là, dans son sein, n'enferme point d'orage, près duquel m'accueillait une aimable famille, et que tu peux goûter, après tes noirs mensonges, sur mon large ciboire au sein d'hélices pareilles. Tout ce qu'un être veut, son propre fond l'ordonne, que ta cruelle main s'empare de la mienne, qui damne les auteurs et les comédiens. Car lorsque sous sa dent viendra craquer la fève, tel le bien et le mal, si clamère du destin, tout bonheur que la main n'atteint pas n'est qu'un rêve. Pagan Poetry par Björk pour prolonger cette plongée dans l'espace à la frontière entre technologie et poésie. Science Chrono, c'est déjà fini. Un grand merci à Mariam Ibrahim et à Olivier Bettard à la réalisation. Merci à Arnaud Planson de l'INA, notre partenaire, pour son aide dans la recherche d'archives. Et merci à Alex Dang aujourd'hui à la technique. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono. A handshake, a cruel chain.